C'est un véritable tsunami auquel l'Église de France a été confrontée avant-hier à la réception du rapport de la Commission Sauvé portant sur les abus sexuels dans l'Église. Pour décrypter ce sujet douloureux, nous recevons aujourd'hui l'évêque de Pamiers. Bonjour, Monseigneur Jean-Marc Echen.
Bonjour à vous.
La commission d'enquête indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, appelée CIAS, présentait ce mardi 5 octobre ses conclusions et ses recommandations après 3 années de travail. Son président, Jean-Marc Sauvé, a révélé un nombre de 330 000 victimes d'abus sexuels dans l'Église par des prêtres, des religieux et des laïcs. Quelle est, Monseigneur Echen, votre première réaction face à ce nombre si important de victimes ?
Bien, c'est d'abord une réaction d'abattement parce que depuis quelques années déjà, nous accompagnons des personnes qui ont été victimes d'agresseurs et de prêtres qui ont commis sur eux des crimes ou des délits. Mais donc on commence à avoir malheureusement l'expérience de l'accompagnement de ces personnes, mais nous n'avons pas imaginé qu'il y en ait autant, c'est-à-dire qu'il y a un tel poids de souffrance, de blessures, de noirceur. Donc on est vraiment sous le choc. On pouvait imaginer que ces réalités, bien qu'elles soient présentes, aient pu rester en quelque sorte un peu marginales. Mais là, on n'est pas du tout dans un phénomène de marginalité. On est dans quelque chose d'assez massif. Donc c'est vraiment d'abord l'abattement et puis une invitation. Moi, je le reçois comme cela, en tout cas, à être dans l'empathie. Et la compassion, ça a tellement manqué à ces personnes qui ont manqué d'être écoutées, entendues, protégées aussi, qui demandaient protection et parfois nous n'avons pas su leur donner, qui demandaient à être accompagnées, à être prises au sérieux. Donc vraiment, s'il y a une urgence aujourd'hui, c'est de se rapprocher d'elles dans la mesure où elles le souhaitent, bien sûr, il ne s'agit pas de forcer la porte, mais vraiment d'être présent auprès de ceux et celles qui sont blessés.
Le président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur de Moulin-Beaufort, a invité les catholiques à lire ce rapport qui, dit-il, met gravement en cause l'Église catholique. Est-ce que vous pensez, Monseigneur Jean-Marc Echen, que la lecture de ces 426 pages va pouvoir conférer ou garder, va permettre aux fidèles de garder l'espérance et la foi en l'Église?
Alors cela sera et est déjà pour eux une épreuve, évidemment, parce que c'est vraiment la confiance qui est atteinte. Alors quand on dit l'Église, c'est vrai qu'on a tendance à penser aux prêtres, aux religieux et aux religieuses, mais l'Église, bon, nous savons que c'est nous tous. Tous les membres du peuple de Dieu par le baptême sont l'Église, même plus largement si on parle de l'Église invisible, tous ceux qui en quelque sorte sont dans une relation même mystérieuse à Dieu constituent l'Église. Mais c'est vrai que ceux et celles qui portent la responsabilité de cette Église, en particulier les prêtres, les évêques, les religieux, les religieuses, les consacrés qui sont en quelque sorte les plus visibles, eh bien pour eux, on va se dire, mais est-ce que je peux vraiment leur faire confiance face à un phénomène si massif? Est-ce que je peux encore confier mes enfants à un mouvement éducatif, un pèlerinage, un pélé VTT, à toutes sortes de réalités, à la catéchèse? Donc la confiance, effectivement, risque d'être fortement atteinte, en particulier dans cette logique de la relation aux enfants et aux jeunes.
Le silence est longtemps resté de mise, malheureusement, à propos de ces abus sexuels dans l'Église. Comment vous l'expliquez, Monseigneur ? Pourquoi il y a une telle chape de plomb pendant des années ?
Alors peut-être que, sans se défausser sur l'ensemble de la société, mais pour avoir accompagné aussi des personnes ayant été victimes dans le contexte familial, il y a toujours cette réaction, cette chape de plomb, venant de ceux et celles qui ont autorité. Alors il peut s'agir des parents, il peut s'agir d'une institution scolaire, éducative ou de l'Église, de dire mais voilà, d'accord, tu as souffert, mais finalement c'est l'honneur de la famille qui est en cause ou l'honneur de l'institution, donc on va garder ça sous silence et on va en parler le moins possible. Donc il y a cette réaction qui est tout à fait effrayante maintenant. Maintenant que nous sommes un peu à distance, au lieu de penser d'abord aux personnes, à leurs blessures, à leur protection, à leur réparation aussi, eh bien on pense à notre image. finalement à l'image que l'on renvoie à l'extérieur. Et ça, il faut vraiment qu'on relise cela parce que, d'une manière générale, c'est cela qui a été en cause. Cette chape de plomb, chape de silence, et parfois avec des logiques de culpabilité inversées, parce que à un certain moment, la personne qui était agressée, on lui renvoyait déjà qu'elle avait tendance à se sentir coupable, peut-être, est-ce que j'ai un peu séduit mon agresseur ? Il y a toujours ce phénomène psychologique. Si en plus on lui dit « mais tu ne vas pas blesser l'institution familiale ou l'institution ecclésiale », on est dans des logiques de culpabilité inversée qui sont tout à fait effrayantes. Donc il y a vraiment des choses fondamentales à revoir dans notre manière de fonctionner. Alors peut-être que nous ne connaissions pas, c'est pas pour nous trouver des excuses, mais c'est vrai que prendre la mesure des dégâts opérés chez des personnes, enfants, adolescents ou personnes en particulière fragilité, quand un adulte envahit leur espace intime, touche leur corps ou se met dans une logique de relation sexuelle avec eux, peut-être que la prise de conscience des dégâts durables que ça provoquait dans la construction des personnalités est relativement récente. Mais ce n'est pas du tout pour nous trouver des excuses, mais aujourd'hui, on n'en a plus d'excuses, parce que ça, on le sait tout à fait, que ces blessures sont très profondes, très durables et très difficiles à réparer.
Oui, justement, Jean-Marc Sauvé a insisté sur la gravité des conséquences de ces abus sexuels. Il disait que 60% des hommes et des femmes ayant subi des violences sexuelles pendant l'enfance connaissent des perturbations fortes dans leur vie sexuelle, familiale, professionnelle ou sociale. Alors évidemment, même si tous les catholiques ne sont pas responsables des violences commises par des membres de l'Église, comment peuvent-ils prendre part à la reconstruction de l'Église comme une maison sûre, ce terme qui a été employé, et accompagner les victimes, Monseigneur ?
Alors, reconstruire l'Église, oui, on peut employer cette image-là parce qu'en quelque sorte, je pensais à l'embrasement de Notre-Dame de Paris, un véritable écroulement qui symboliquement d'ailleurs disait des choses parce qu'on était déjà au milieu de ces affaires de pédocriminalité. Donc là, notre Église en quelque sorte est à terre. Nous parlions tout à l'heure de la confiance. On a porté atteinte radicalement à cette confiance. Maintenant, il faut reconstruire cet édifice, reconstruire une maison sûre. Alors, bien sûr, il faut partir sur des bases nouvelles, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre le temps de lire, d'analyser tout ce qui s'est passé et le pourquoi, parce que le rapport Sauvé nous dit qu'il y a quand même des causes systémiques. Il n'y a pas que des causes liées au fait que telle ou telle personne soit particulièrement perverse, et un pourcentage de pervers qu'il existe dans tout groupe humain, il y a dans nos modes d'organisation, dans nos modes d'exercer l'autorité, dans notre manière de présenter peut-être le prêtre en faisant une sorte de personnage sacré qui serait hors de la condition commune, il y a toute une série de causes un peu systémiques qu'il nous faut grandement analyser. Et peut-être aussi, et là nous rejoindrons une démarche dans laquelle veut nous engager le pape François à travers ce synode sur la synodalité. Il veut vraiment que nous revisitions l'exercice du pouvoir dans notre Église. Que cet exercice du pouvoir ne soit pas entre les mains de quelques-uns, mais qu'il soit vraiment partagé, qu'on soit dans des logiques de co-responsabilité, des logiques beaucoup plus transversales. Et sans doute que cela pourra nous aider aussi à reconstruire, mais sur des fondations un peu nouvelles.
Voilà des chantiers qui s'ouvrent à vous, à toute l'Église de France. Et une des principales recommandations faites par la Commission Sauvé est l'indemnisation des victimes. Est-ce que vous croyez, Monseigneur Jean-Marc Eschène, qu'une somme d'argent va suffire à réparer le préjudice qui a été subi par ces victimes d'abus sexuels dans l'Église ?
Alors les blessures sont tellement profondes. Monsieur Sauvé parlait de mort. Il assimilait ces agressions à une atteinte à la vie. Donc parfois on a eu tendance à être dans des euphémismes, des gestes déplacés ou une attitude non convenante, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus radical. Il s'agit vraiment d'atteinte à la vie. Alors comment réparer pour une vie qui est si radicalement blessée, voire qui est perdue, parce qu'il y a aussi des cas de blessures tellement profondes que ça a conduit des gens au suicide. Donc la vie n'a pas de prix. Donc en quelque sorte, réparer complètement, M. Sauvé l'a dit, c'est impossible. Mais réparer pour une part, de manière symbolique, la réparation ou l'indemnisation dit une attention qu'on prête à la personne et dit aussi une aide qu'on lui apporte pour avancer dans la vie avec le plus d'équilibre possible, pour essayer de trouver des soutiens dont elle a besoin compte tenu de la fragilité particulière qui a été engagée par ces agressions. Donc il va falloir se pencher vraiment sur ces questions d'indemnisation. Alors certains disent ça va mettre notre Église en faillite. Pourquoi pas ? Après une faillite morale, qu'on ait une faillite économique, après tout, si on est plus pauvre, on sera plus proche de l'Évangile. Si les évêques et les prêtres, si l'évêque que je suis doit travailler, eh bien, je le ferai. Mais à un certain moment, il ne faut rien s'interdire. Si nous sommes moins riches, eh bien, ce sera pour nous une manière de compenser pour de telles blessures.
Les rapporteurs de la CIAS, donc cette commission indépendante pour les abus sexuels dans l'Église, recommandent une réforme du secret de la confession. Alors nous savons que c'est un sujet extrêmement sensible pour l'Église. Rappelons-nous qu'en Australie avait été votée en septembre 2020 une loi qui obligeait le prêtre à briser le secret de la confession dans le cas d'abus sexuels sur mineurs. Comment vous allez aborder ce chantier, Monseigneur Richel ?
Alors c'est vrai que jusqu'alors, le secret de la confession dans l'Église catholique est une chose assez absolue. On est dans une logique un peu binaire, c'est-à-dire que on se dit que si le secret n'est pas garanti, comment une personne pourrait-elle se confier ? Et en même temps, nous sommes invités à réfléchir, et le rapport Sauvé nous y invite, quand on a en face de soi une personne qui est une personne criminelle qui risque de récidiver, est-ce que conserver le secret, ce n'est pas directement ou indirectement mettre en danger d'autres personnes et faire qu'il y ait à nouveau de nouvelles victimes. Donc comment faire pour entendre cet appel-là, préserver autant que faire se peut le secret de la confession, mais entendre aussi qu'on ne peut pas, si on a des informations fiables et crédibles, laisser en circulation, sans en informer la justice, des gens qui sont extrêmement dangereux, en particulier pour des enfants et pour des adolescents. Alors nous n'avons pas réfléchi encore ensemble à cette question-là, et on y réfléchira certainement aussi avec l'Église universelle et avec le pape, mais je crois qu'il faut que nous soyons dans une attitude dans laquelle toutes les préconisations du rapport, même si elles nous perturbent, aujourd'hui nous sommes dans un accueil bienveillant, en disant bon, on va essayer d'entendre ça et puis d'en tenir compte pour modifier nos pratiques.
Un dernier mot, Monseigneur Jean-Marc Eschen, pour terminer notre entretien, est-ce que vous auriez une parole d'espérance pour à livrer à nos auditeurs pour cette période difficile ?
Alors peut-être une parole d'espérance ambivalente, mais il y a parfois dans nos existences des lumières qui viennent du fait que nous soyons immergés dans la noirceur. Il y a une mystique du XXe siècle, Madeleine Delbrel, qui parle de la lumière noire. On pourrait rejoindre aussi, vous savez, cet outre noir du musée de Pierre Soulages à Rodez. À un certain moment, il y a des éclairages sur le réel qui ne peuvent nous venir que du fait de descendre dans les profondeurs des enfers, et là, cette commission nous fait descendre dans ces profondeurs des enfers si terribles, des blessures adressées à des personnes. Alors nous allons accueillir cette lumière pour vraiment nous convertir, une conversion individuelle mais une conversion collective aussi, et c'est comme une lumière qui nous est donnée.
Merci beaucoup, Monseigneur Eschen, d'avoir accompagné nos auditeurs dans la réception de ce rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIAS. Je suppose qu'évidemment, ce sujet sera au centre de vos discussions lors de la prochaine Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France en novembre prochain.
Bien sûr.
Merci beaucoup à vous.
Merci à vous, Isabelle.
Je rappelle aussi à nos auditeurs que la prochaine émission de Vivante Église d'Emmanuel Pella aura ce thème mardi 12 octobre.